Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus sur le 106,6 de la bande FM. Gérard de retour au micro pour un nouveau numéro de Contre-Courant, ma foi. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'émission pendant 8 semaines après son passage sur l'antenne sur le www.campuslille.com et d'autre part sur le même site, rubrique Les Pages puis Contre-Courant. Et vous pouvez consulter une petite bibliographie préparée pour chaque émission, ainsi que les références des morceaux utilisés pour les pauses musicales. Je vais vous parler aujourd'hui d'un essayiste politique contemporain dont la lecture me paraît, voyez-vous, assez indispensable par les temps qui courent. Il s'agit d'Alain Accardo. Alain Accardo est un sociologue qui fut assez proche de Bourdieu et dont l'analyse déborde en fait largement aujourd'hui le seul cadre sociologique. Et le premier livre d'Accardo dont je vous parlerai s'intitule « De notre servitude involontaire ». Il a paru d'abord en 2001, puis dans une première version, puis en 2013, il a été repris dans une version augmentée, actualisée. Et il met en évidence les mécanismes qui permettent qu'en France, mais évidemment le processus est le même dans bien d'autres pays, quelques centaines de milliers d'individus peuvent imposer à peu près toutes leurs décisions, et surtout politiques et sociales, bien entendu, à plusieurs dizaines de millions de personnes. Jamais, sans doute, dans l'histoire de l'humanité, un champ social n'a atteint le degré de puissance et de concentration du capital, qui est celui du champ économique et financier actuel, et n'a été autant en mesure de se soumettre les autres champs sociaux en leur imposant sa propre logique de fonctionnement, écrit Accardo. Et cette logique est évidemment particulièrement néfaste à l'immense majorité de ceux qui, en réalité, produisent les richesses. Cette logique, avec cynisme et sans le moindre souci moral ou la moindre considération d'humanité, programme, écrit Accardo, l'enrichissement illimité des riches par l'appauvrissement méthodique des pauvres. Et c'est une propagande particulièrement bien huilée, bien orchestrée, grâce à des médias qui sont à peu près tous aux mains des dominants financiers. C'est cette propagande qui nous a fait croire, dans notre grande majorité, au bien fondé et au caractère inéluctable de ce processus, mais désormais nous n'y croyons plus, bien entendu. Accardo poursuit sa démonstration dans Le Petit Bourgeois Gentilhomme en mettant en évidence que ce sont les classes moyennes, enseignants, journalistes, politiciens, sociaux-démocrates en particulier, qui ont rendu possible l'adhésion involontaire de la grande majorité des citoyens français au système. Que deviendrait, en effet, s'interroge l'essayiste, la capacité de nuisance du capitalisme sans, je cite, l'intervention zélée, compétente et convaincue de ces myriades d'auxiliaires salariés qui, à des échelons divers, dans leurs bureaux, leurs services, leurs agences, leurs chantiers, leurs ateliers, encadrent, dirigent, surveillent, contrôlent, entretiennent, expertisent, conseillent et optimisent le fonctionnement de la mécanique à broyer de l'humain. En somme, que deviendrait cette capacité de nuisance du capitalisme sans cette escouade de petits chefs, de moyens chefs aussi, qui contribuent ainsi à la banalisation du mal dont parlait Hannah Arendt. Dans le troisième livre, intitulé « Engagement », publié plus récemment, en 2011, Accardo reprend une série d'articles et de chroniques publiées pendant une dizaine d'années, en particulier dans le mensuel « La décroissance ». Prenant appui sur de nombreux exemples concrets, Accardo y dresse le constat qu'aujourd'hui, je cite, « le seul enjeu politique réel est celui de la poursuite ou de l'arrêt » des politiques démentielles et suicidaires dont les variantes successives de droite et de gauche nous ont conduit, chez nous comme ailleurs, à l'état catastrophique d'abaissement et de dégradation dans lequel se trouvent aujourd'hui la République et la démocratie. La République n'est plus qu'une abjecte ploutocratie et la démocratie, sa façade en trompe-l'œil. Je commencerai donc mon propos par l'exposé lumineux, je dirais, que constitue de notre servitude involontaire. Le livre est paru en 2001, je vous le disais, et près de 12 ans plus tard, il faut bien constater que ces affirmations se sont vues largement confirmées par les événements. Sous le titre de notre servitude involontaire, nous entendons évidemment la référence au célèbre essai de La Boétie, Discours de la servitude volontaire cette fois. Et toute la différence, bien entendu, mais elle est essentielle, tenant ici à l'adjectif. Cependant, entre le volontaire de La Boétie et le involontaire d'Accardo, la contradiction n'est peut-être pas aussi nette qu'il semble. En particulier lorsque La Boétie affirme, je cite, qu'à l'homme, toutes choses lui sont comme naturelles, à quoi il se nourrit et s'accoutume. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Il y a en effet dans ce processus d'accoutumance dont parle l'ami de Montaigne des mécanismes qui échappent totalement à la conscience de celui qui y est soumis. Alors certes, comme le précise Accardo, d'un point de vue sociologique, je cite, la soumission au système relève très généralement moins d'une démarche volontaire que d'un ajustement pratique spontané et socialement conditionné, dont les mécanismes sont hors du champ de la conscience immédiate. C'est-à-dire qu'Accardo, évidemment, franchit un pas par rapport à La Boétie, il n'y a rien, on ne s'en étonnera pas, en affirmant que nous ne nous libérerons pas des contraintes qui nous asservissent sans d'abord faire retour sur nous-mêmes et comprendre comment nous avons pu ainsi intérioriser, en somme, et finir par prendre pour argent comptant, c'est le cas de le dire, des arguments qui constituent la base même de notre servitude, tout particulièrement économique, évidemment. Il reste que la notion d'habitus, à laquelle ont recours certains sociologues contemporains, n'est peut-être pas si éloignée qu'on le pense de celle de coutume employée par La Boétie. Accardo parle en effet d'un véritable travail de domestication ayant pour effet de faire habiter le système par sa population et d'habituer la population, lui faire acquérir donc l'habitus correspondant au système. Venons-en à l'essentiel de la démonstration proposée par l'essai d'Accardo, qui, quoi qu'il en soit, va bien au-delà, je viens de le dire, des propositions de La Boétie en termes de compréhension d'un système qui menace la grande majorité des habitants de ce pays aujourd'hui et en termes aussi des moyens dont nous disposons pour nous opposer à ce système destructeur. Que pouvons-nous faire en effet pour mettre un terme, se demande Accardo, à ce processus bipolaire d'accumulation capitaliste, devenu apparemment incontrôlable, qui entasse à un bout, au bénéfice des classes possédantes, des montagnes de richesses et de jouissances, en même temps qu'il creuse, à l'autre bout, des abîmes de privation et de souffrance pour des masses de dépossédés. Accardo s'interroge sur le peu de résultats des critiques, nombreuses, argumentées, prouvées, que l'on a adressé au système jusqu'à présent. La raison majeure de cet échec, développé dans le livre sous ses principaux aspects, tient au fait que nous avons intériorisé, comme je viens de le dire, ledit système au point que nos comportements sont devenus à l'égard de ce système autant d'actes d'adhésion inconsciente, même de la part de ceux qui croient faire le plus preuve d'indignation et d'esprit critique à l'égard du système. Parce que ce système a pris la forme en nous d'un ensemble, écrit Accardo, de dispositions personnelles, inclinations, tendances, motivations, compétences et aptitudes à fonctionner dans un tel environnement objectif. Et même dans notre façon de critiquer ce système, nous le faisons encore sur la base d'une adhésion sous-jacente et au fond en apportant une aide, encore une fois involontaire, à ce système. Parce que cette critique ne remet pas fondamentalement en cause les présupposés idéologiques que le système a déposés en nous grâce aux formidables moyens de propagande dont il dispose. Et l'adhésion repose également, soyons clairs, sur les miettes que le pouvoir dominant est bien obligé de redistribuer, au moins une catégorie de la population, faute de quoi la cocotte sociale exploserait, bien entendu. Et dans l'Europe de ces dernières décennies, quelle est la forme de pouvoir politique chargée de cette redistribution trompeuse ? Eh bien évidemment, et depuis longtemps en somme, la social-démocratie qui aujourd'hui, écrit Accardo, n'a plus rien à voir avec une force d'opposition anticapitaliste, ce qu'elle fut autrefois à l'époque d'un Jean Jaurès, d'une Rosa Luxembourg ou d'un Karl Liebknecht. C'est ce qu'affirme Accardo qui ajoute qu'il n'y a plus désormais de possibilité de lutter sérieusement contre le système capitaliste si on ne réalise pas au départ qu'il a revêtu la défroque socialiste, autrement dit que le prétendu socialisme des Mitterrand, Fabius, Jospin, Hollande, héros comme celui des Papandréou, Schröder, Blair, Zapatero et tutti quanti, n'est pas de gauche comme ils avaient et ont toujours le front de le proclamer, mais bien de droite. C'est-à-dire que ces prétendus socialistes continuent jour après jour, mois après mois, année après année, peut-être d'ailleurs à contribuer, peut-être parfois plus que la droite déclarée, à l'assujettissement, à l'appauvrissement, à l'exclusion des classes défavorisées, des salariés en général, jusqu'à atteindre inévitablement même les classes moyennes, du moins dans leur moitié inférieure, on dirait. Et ceci est bien sûr au grand bénéfice des dominants dont ils sont les exécutants zélés. Tout ceci accomplit également, c'est évidemment, et c'est là que se situe la grande tromperie, au nom même des intérêts du plus grand nombre, au nom d'une bonne gestion du pays, qui est en réalité une bonne gestion des affaires des riches, sous le contrôle de l'Europe, bien entendu. Instance, l'Europe, qui, comme l'on sait, n'essaye même plus de sauver les apparences démocratiques dans les décisions qu'elle prend contre les peuples. Alors il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, comme le dit Accardo, chez nous, comme un peu partout, nous sommes passés sous la dépendance du capital économique, dont les plus gros détenteurs, monopoles industriels, banques multinationales, grands investisseurs, sont désormais en situation de faire la loi au reste du monde, directement ou par gouvernement interposé, parce qu'ils ont réussi à concentrer entre leurs mains ce qui est devenu aux yeux de toutes les populations une valeur fondamentale de l'existence humaine, une valeur qui mesure toutes les autres, l'argent. Et trois terrains se sont révélés particulièrement efficaces pour nous faire penser que cette dépendance est désormais notre seul horizon et que nous avons donc à nous y adapter, à essayer de nous en sortir individuellement le mieux possible. On nous a d'ailleurs convaincu que le système récompense bien ses serviteurs les plus zélés. C'est là, bien sûr, la grande illusion, la carotte à atteindre alors que les dés sont pipés dès le départ. Et ces trois terrains sont d'abord évidemment le système scolaire universitaire où explicitement on ne forme plus de futurs hommes et citoyens, mais exclusivement désormais des professionnels aussi dévoués que possible. Deuxième terrain, le système médiatique, bien entendu, où l'on nous assène à longueur de journée ce qu'il convient de penser. Et troisième terrain, le système politique de la démocratie représentative, appelait-elle en tout cas. La démocratie représentative qui tend de plus en plus à ne plus représenter qu'elle-même et jusqu'à former une véritable nomenclatura uniquement soucieuse de ses propres intérêts. Pour éviter le véritable désastre qui s'annonce, pour éviter que la guerre menée par les dominants capitalistes contre tous les salariés ne se transforme en tragédie, que faudra-t-il changer, s'interroge Accardo, sans se défausser évidemment le moins du monde de l'indispensable combat politique, mais au jour d'aujourd'hui, sur quelle base s'appuyer? Il répond que chacun doit aussi balayer devant sa porte, et ce discours s'adresse tout particulièrement aux classes moyennes. Le monde n'est pas une marchandise, nous sommes de plus en plus nombreux à le proclamer, affirme l'auteur, mais, ajoute-t-il, j'aimerais être sûr que tous ceux qui se mobilisent en arrivent à se poser cette question décisive qui ne peut être différée. Qu'est-ce qui, en moi, a déjà été acheté, approprié par le système et fait de moi un complice qui s'ignore? Ce sont nos façons de penser, de vivre, qui sans doute doivent être modifiées en profondeur, à commencer par, pour beaucoup, un égocentrisme fortement encouragé par le système, parce que, eh bien, il fait marcher les affaires, grâce à un narcissisme, je dirais, directement en rapport avec la fonction consommatoire, qui nous pousse à acheter compulsivement, ostentatoirement, pour épater la galerie. Et puis, ajoute Accardo, parce que il est une structure de domination, le système a aussi besoin d'hommes et de femmes avides de pouvoir personnel, aussi limités, voire dérisoires qu'ils soient, et nous devrons comprendre un jour ou l'autre qu'il faut en finir avec ces façons de faire, car nous en serons bientôt aussi les victimes. C'est la logique même du système qui le veut, nous, c'est-à-dire tous les individus bien pensants qui ont cru jusqu'à présent que ce système, malgré ses incontestables défauts, était le moins mauvais imaginable. Là est l'erreur, la tromperie savamment entretenue, la grande illusion.
Peut-être une vie merdique, mais c'est bon pour les statistiques. Ah, rien, pas rien.
Malgré un constat qui semble plutôt désespérant, Accardo montre cependant qu'il existe un certain nombre de raisons assez solides, propres à nous faire envisager l'avenir sous un jour moins sombre qu'on pourrait le croire. Il existe en effet de sérieux motifs de ne pas désespérer. Le capitalisme finissant toujours d'une façon ou d'une autre par promouvoir les conditions de son propre dépassement. Jamais, écrit Accardo, la possibilité d'une humanité libérée, fraternelle et juste n'a rencontré dans la réalité des bases matérielles et symboliques aussi solides. Évidemment, la fameuse autorégulation des marchés dont on nous a tant rebattu les oreilles, ce n'est qu'un mythe. Le capitalisme ne mettra jamais de lui-même un frein à sa cupidité. Il satisfera son désir d'accaparement jusqu'au délire, jusqu'à ce que ce pays, ce continent et la planète tout entière soient devenus absolument invivables. Mais à mesure, d'un autre côté, que cette folie destructrice progresse, un nombre croissant de gens prennent conscience de la nécessité de mettre un terme aux agissements des prédateurs. Et surtout, très important, ne croient plus aux mensonges proférés en boucle sur la concurrence, la compétitivité ou encore la nécessité, par exemple, qu'il y aurait eu à livrer au secteur privé les pans les plus importants de la production économique et des instances bancaires et financières. Il faut rappeler à cet égard que sous Jospin, qui fut Premier ministre de 1997 à 2002, plus d'un millier, je cite, d'entreprises publiques, maisons mères et filiales sont passées dans le giron du secteur privé, autant que sous la période 93-97, sous les gouvernements de droite, de Balladur, puis de Juppé. Je tire cette citation d'un livre de Christophe Ruffin qui s'appelle « La guerre des classes ». Christophe ou François Ruffin. Les gens comprennent, progressivement, lentement certes, mais comprennent que tous nos maux viennent de ces décisions politiques-là. Et comprennent que ce qui a été fait politiquement peut être défait également par des moyens, tous les moyens politiques. Mais comprennent également ces gens qu'une telle inversion ne se produira pas spontanément, qu'il faudra pour le moins se montrer aussi combatif que le sont les riches pour défendre leurs intérêts et accroître leurs profits, au détriment toujours du plus grand nombre. Et de ce point de vue, les patrons du CAC 40 se montrent, n'en doutons pas, particulièrement combatifs, car ils savent bien, quant à eux, que la lutte de classe existe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une anecdote assez récente, et qu'un beau jour de 2005, un patron américain du nom de Warren Buffett, situé dans les toutes premières fortunes mondiales, a créé une énorme surprise en déclarant la chose suivante, je cite, « La lutte de classe existe ». Et c'est la mienne qui est en train de la remporter. Et ce patron ajoutait, c'est toujours François Ruffin qui nous le rappelle, je cite, « C'est une guerre de classe, ma classe est en train de la gagner, mais ça n'est pas normal. En ce moment, les profits des entreprises atteignent un sommet en pourcentage du PIB, tandis que les impôts sur les entreprises, en pourcentage global des impôts, sont presque au plus bas. » Fin de citation. Et évidemment, de telles déclarations, n'est-ce pas, sont devenues absolument impensables dans la bouche des socialistes français. Pourquoi, néanmoins, pourrait-on s'interroger, le système continue-t-il à fonctionner apparemment sans accroc, malgré ses conséquences humaines catastrophiques ? Parce qu'il a su, répond Accardo, développer l'ingénierie capable de façonner subjectivement le type d'humain qui croit et espère en lui. L'homo economicus capitalisticus, toujours disposé à s'accommoder, à défaut des bienfaits réels du capitalisme, de la promesse de ses bienfaits à venir, bien entendu. Et ce sont les classes moyennes qui se sont attelées à cette tâche permanente, et telle est la thèse développée dans le second livre dont je vous parlerai, « Le petit bourgeois gentilhomme ». Jamais, écrit Cardo, jamais nulle part jusqu'ici, la fonction de production de l'illusion idéologique n'a été assurée avec autant d'efficacité par autant d'ateliers employant autant de spécialistes. Fin de citation. En effet, l'école, par exemple, a pour désormais pour principale fonction d'adapter les jeunes à l'ordre existant. Les médias sont devenus, je cite, une immense et ubuesque machine à décerveler, à fabriquer de l'agenouillement et du consensus. Quant au champ politique, qu'est-il d'autre aujourd'hui en Europe qu'une machine à, je cite encore, gérer l'ordre économique imposé par les puissances de l'argent ? Une procédure à laquelle, au fond, ajoute Accardo, quelques services bien informatisés et quelques promotions d'énarques bien dressées pourraient pourvoir. Le plus grave, c'est que les moyens de propagande au service de l'argent auront utilisé à plein rendement les technologies de communication pour transmettre aux individus des valeurs morales complètement inversées. La lutte incessante pour les postes, les titres, les gratifications, les contrats, les parts de marché, le pouvoir et finalement la domination réclame du combattant moderne qu'il ait l'âme légère, la conscience peu encombrée de doutes ou d'interrogations. Ça, c'est encore une affirmation d'Accardo. Mais, en somme, pour masquer le caractère sauvage de cette lutte, il est nécessaire de prétendre la mener, évidemment, au nom des anciennes valeurs. Pas un prédateur, aussi dépourvu de considération humaine, aussi âpre au gain soit-il, qui n'éprouve le besoin de déclarer qu'il mène son combat pour des raisons collectivement utiles, en dernier ressort, bien sûr, pour créer ou sauver des emplois, pour sortir le pays du marasme et autres mascarades pseudo-philanthropiques. Et Accardo de mettre en avant ce qu'il appelle la moyennisation de notre société. Les classes moyennes sont devenues la référence en matière de représentation, de façon de vivre et de penser. Référence d'ailleurs pour le peuple lui-même, la classe ouvrière elle-même, alors même que ces classes moyennes en sont désormais à peu près totalement coupées. Et pourtant ces classes moyennes-là connaissent l'état du monde dans lequel nous vivons. Elles savent que, je cite, les marchés financiers, la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, le G7 et autres institutions du système capitaliste qui orchestrent la mondialisation, gouvernent les gouvernements et imposent, pour le plus grand profit des investisseurs, des politiques criminelles qui font du monde une poubelle physique et un cloaque moral où des millions d'êtres humains sont condamnés à croupir de la naissance à la mort. Alors ces classes moyennes savent tout cela, elles n'ignorent pas les monstrueuses inégalités qui se sont mises en place ces dernières décennies. Elles savent tout cela et pourtant c'est comme si elles ne le savaient pas. Parce que, voyez-vous, les classes moyennes, eh bien, n'ont pas le temps de se préoccuper de ces questions sociales. Et, en somme, elles ont élu des gens dont c'est la spécialité, des gens de gauche, bien entendu, n'est-ce pas ? Et les classes moyennes travaillent beaucoup, voyez-vous, elles gèrent leurs loisirs, elles s'intéressent aux nouvelles technologies, elles ont des activités culturelles, elles vont au musée, aux concerts, elles ont des préoccupations esthétiques, et elles sont hédonistes. Elles essayent de tirer de la vie tout le plaisir possible. Elles ont des idées humanitaires et surtout, elles sont libertaires. Ah, la liberté, quel mot magnifique! La liberté d'entreprendre, la liberté du marché, la liberté d'exploiter ses semblables, la liberté d'exporter ses capitaux à l'étranger, si je le désire. Enfin, le retour du grand laisser-faire du XIXe siècle. Que demander de mieux? Alors, évidemment, beaucoup de gens souffrent dans ce monde. Près de 15% de la population de ce pays vit sous le seuil de pauvreté. Mais n'en a-t-il pas toujours été ainsi? C'est complètement ringard et contre-productif d'imaginer que l'on pourrait résorber les inégalités d'un coup de baguette. Et puis tenez, s'il y a encore tant de pauvres, cela prouve au moins que tous les programmes sociaux mis en œuvre jusqu'à présent sont inefficaces. Alors, autant les supprimer une bonne fois. Et puis n'est-ce pas l'univers des classes moyennes? C'est un univers où l'on doit gérer ses relations, où il convient de faire bonne figure, de se montrer et de montrer qu'on en fait légitimement partie. Voilà des préoccupations qui prennent du temps. L'univers des classes moyennes, écrit Accardo, est bien celui de la comédie généralisée, de l'imposture institutionnalisée, où l'imposteur est la première dupe, où les faux monnayeurs se payent eux-mêmes avec la fausse monnaie de leurs illusions. Le monde va mal, mais évidemment les classes moyennes formées, formatées par le Nouvel Observateur, France Culture et Tutti Quanti sont suffisamment au point politiquement et idéologiquement pour ne plus penser que des changements radicaux pourraient intervenir. Les classes moyennes sont essentiellement réformistes, voyez-vous. Le système n'est pas mauvais en soi, il suffit de procéder aux modifications à la marge dont il a besoin. Seulement voilà, je cite, « de toutes les impostures dont souffrent les démocraties occidentales, l'affirmation des vertus du réformisme, dont les partis sociodémocrates et travaillistes se sont fait les champions, est certainement l'une des pires. Pourquoi l'une des pires? Pour deux raisons. La première, c'est que désormais, sous le nom de réforme, on met en place un tour de vis supplémentaire dans la dégradation des moyens de vivre, on pourrait presque dire maintenant de survivre, bien sûr, d'une partie importante de la population. La réforme des retraites est évidemment particulièrement représentative de cette imposture. Et seconde raison, les prétendues réformes auxquelles les médias accordent une place démesurée par rapport à leur importance réelle. Ce sont celles qui portent évidemment sur des questions de mœurs et de relations. On nous amuse aussi longtemps que possible avec le mariage de Pierre et Paul, et pourquoi pas y ajouter Jacques, pendant que, évidemment, les vrais problèmes, celui des inégalités en particulier, ne cessent de s'aggraver dans la plus totale indifférence des personnages politiques au pouvoir. Indifférence et surtout volonté de ne rien faire. Car il est bien entendu que l'on ne touche pas au profit des grands groupes financiers et industriels. C'est mondial, européen, ça, mesdames et messieurs, on ne peut rien faire. Seuls ignorent encore la malfaisance du capitalisme, écrit Accardo, ceux qui ne veulent pas savoir, non pas nécessairement par malignité perverse, mais parce que le système s'est si bien incorporé dans leur être profond qu'ils font corps et âme avec lui et qu'ils ne peuvent concevoir de s'en séparer. C'est la raison pour laquelle il est urgent de rappeler à nos classes moyennes que ce qui est vraiment ringard, régressif et historiquement dépassé, c'est précisément le réformisme. Voilà plus de 100 ans en Europe que les sociodémocrates de tout poil ont largement fait la preuve, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et ailleurs, qu'au moment décisif, et il y en a eu quelques-uns, ils ont toujours basculé du côté de la bourgeoisie la plus rétrograde, avec les dégâts incommensurables que cette option a engendrés sur le continent tout au long du XXe siècle. En conséquence, il est urgent, comme le préconise Accardo, d'en revenir à des mesures radicales pour mettre un terme à, je cite, la propriété privée des grands moyens de production, ceux qui permettent de satisfaire les besoins de l'ensemble de la société. Cette propriété des grands moyens de production doit être collective, quelles que soient ses diverses modalités concrètes. Toute autre forme, poursuit Accardo, toute autre forme d'organisation des rapports de production est une insulte à la raison, on le constate tous les jours, et ne peut relever que d'un bricolage visant à sauver la propriété capitaliste en compromettant l'existence de la grande masse des salariés. Oui, de la grande masse des salariés, qui est toujours constituée pour l'essentiel par la classe ouvrière. On ne devrait pas avoir à le rappeler, tant cette réalité est patente, mais les médias aux ordres voudraient tellement nous faire croire, en s'y employant jour après jour, que la classe ouvrière, n'est-ce pas, est en voie d'extinction, qu'elle a quasiment disparu, que désormais il n'y a plus que des emplois de service, etc.
Et
il y a une réalité que l'on apprend dans le livre de François Ruffin, toujours La guerre des classes dont je viens de vous parler. Ce livre est paru en 2008. Alors cette réalité que l'on apprend, c'est, selon le FMI lui-même d'ailleurs, dans les 7 pays les plus riches du monde, on appelle le G7, la part des salaires dans le produit intérieur brut, PIB, a baissé de 5,8% entre 1983 et 2006. D'après la Commission européenne, la part des salaires au sein de l'Europe, cette fois, a chuté de 8,6% et en France de 9,3%. Et rappelons que durant ce presque quart de siècle, entre 83 et 2006 donc, les socialistes furent au pouvoir, aux affaires comme on dit, pendant 17 ans. Alors quelles sont les causes essentielles de cette baisse de la part des salaires? Premièrement, les suppressions de postes, l'augmentation considérable du chômage, provoquée souvent de manière artificielle sous la forme de délocalisation, de la casse des services publics. Deuxièmement, ce même chômage provoquant évidemment des baisses substantielles de salaires et l'acceptation par la classe ouvrière de ces baisses par peur de perdre son emploi. Troisièmement, la précarisation du travail lui-même. Et quatrièmement, l'augmentation des cotisations salariales. Et toutes ces causes, bien entendu, ont un seul et même objectif, l'augmentation des profits. Et évidemment, ces 9,3% représentent des sommes absolument considérables, sans doute assez nettement plus que 100 milliards d'euros annuels qui sont allés à l'achat de yachts, de châteaux, de résidences somptueuses et autres produits indispensables, bien entendu. Et puis alors, nos journalistes, dans leur immense majorité, de répéter à longueur de journée, de mois, d'années, que la France s'est appauvrie, que le pays vit au-dessus de ses moyens, que, n'est-ce pas, les salaires sont trop élevés, qui rendent nos productions peu compétitives, etc., etc. Le tout, bien sûr, au nom de la plus grande objectivité. Mais commente Accardo dans son livre Engagement, troisième livre dont je vous parle aujourd'hui, quel crédit, je cite, quel crédit peut-on accorder à toutes ces protestations d'indépendance et d'impartialité quand elles proviennent de journalistes qui, dans leur grande majorité, font fonctionner avec zèle un système médiatique d'information dont ils trouvent normal qu'il soit tombé à peu près entièrement aux mains de grandes entreprises capitalistes et qui, du fait même de leur recrutement social, de leur formation et de leurs conditions de travail, sont prédisposés à véhiculer aveuglément le nouvel esprit du capitalisme, son apologie de la force, du fric et de la frime, transfigurée en culte de l'efficacité, de la créativité, de la souplesse, etc. Le film récent de Gilles Balbastre, certains parmi vous, j'espère nombreux, l'ont vu, qui s'intitule « Les nouveaux chiens de garde », nous a montré cette digne corporation journalistique, et, n'est-ce pas, dans toute sa splendeur de collaboration avec les dominants de la finance, et ceci jusqu'au ridicule, jusqu'à la nausée. Et ce film a démontré que les quelques dizaines de personnages, en quelque sorte l'aristocratie du journalisme, qui tiennent la profession sous leur coupe, entretiennent, n'est-ce pas, des contacts permanents, étroits jusqu'à l'inceste, comme l'écrit Accardo, avec le pouvoir économique et politique. L'une des notions les plus fréquemment employées pour remettre en cause toute critique adressée au système, c'est celle, plus exactement, d'archaïsme. Et comment nos journalistes ne seraient-ils pas incités à penser, si l'on peut dire, de la sorte, puisque les socialistes eux-mêmes sont à l'origine de ce discours? Ces socialistes qui, depuis belle lurette, n'ont plus rien de socialiste, au dire même, comme on s'en souvient, de Jospin, par exemple, pendant sa campagne pour les présidentielles de 2002, avec les résultats que l'on a observés. D'ailleurs, affirme Accardo, on aurait pu croire qu'avec Jospin, les socialistes avaient atteint, en somme, le bout de la logique social-démocrate de soumission aux forces du marché et d'abandon de souveraineté face aux diktats du libéralisme européen. Eh bien non! Il pouvait descendre d'un cran encore. Le tandem Hollande-Royal a réussi à parfaire l'entreprise. Fin de citation. Et depuis 2007, date à laquelle cet article dont je tire la citation, recueilli dans Engagement, a été écrit, chacun peut constater que les choses se sont encore dégradées. Les responsables socialistes sont éminemment coupables de nous avoir concocté la fiction, n'est-ce pas, d'une espèce de terre de cocagne où la lutte des classes n'existerait plus, où seuls, n'est-ce pas, des partenaires sociaux se réuniraient de temps à autre pour débattre, pour parfaire un système qui, certes, a des défauts, mais qui, à tout prendre, est encore le moins mauvais. Quelle fable ! Comme l'écrivait Rosa Luxembourg en 1918 déjà, « Quelle émouvante, je cite, quelle émouvante réconciliation générale des classes. Partout, les socialistes tirent les marrons du feu pour la bourgeoisie. Le capital a soudain disparu. Les conflits de classe sont nuls et non avenus. Notre monde, ajoutait-elle, est une véritable arche de Noé, où l'agneau ira tranquillement paître auprès du loup, où le tigre ronronne en clignant des yeux comme un gros chat domestique, alors que du bout de ses cornes, l'antilope le chatouille derrière l'oreille, où le lion et la chèvre jouent à saute-mouton. Ou pour le dire autrement, il ne faut jamais espérer, comme on nous l'a fait miroiter des années, voire des décennies durant, que le capitalisme, atteint par on ne sait quelle hypothétique lucidité doublée, n'est-ce pas, d'une soudaine empathie pour les déshérités qu'il engendre, deviendrait subitement raisonnable, se mettrait de lui-même à s'auto-réguler, comme on dit. Il est dans sa nature d'asservir toujours plus un nombre croissant de personnes en augmentant jusqu'à l'insupportable les inégalités sociales. Et c'est dans cet accroissement même du nombre de victimes engendrées par le système que l'on peut trouver une source d'espoir. On peut, écrit Accardo, sans être grand clerc, prévoir que les avanies et les dommages croissants que l'évolution de la mondialisation capitaliste a commencé d'infliger aux classes moyennes, y compris à leurs fractions jusqu'ici plutôt favorisées, vont donner à réfléchir à plus d'un partisan de la libre entreprise et l'amener à mesurer d'un autre œil l'écart qui le sépare des plus exploités. Fin de citation. Rien de tel, évidemment, pour accélérer la prise de conscience des classes moyennes qu'un nombre croissant de ceux qui appartiennent à cette catégorie constatent que le capitalisme ne les épargnera pas, malgré leur bonne volonté, leur modération, leur prétendu savoir et leur usage parfois immodéré des nouvelles technologies. Rien n'y fera. Pour accroître ses profits, le capitalisme mondial n'hésitera pas à trancher dans le vif des classes moyennes. Le travail en 2013 est d'ailleurs largement entamé. Alors on peut espérer en finir, selon Accardo, avec, je cite, la gauche en trompe-l'œil, la gauche esthétisante, la gauche de communication, la gauche salonnarde et tartuffarde, bref, la gauche des petits bourgeois gentilshommes. Cette pseudo-gauche qui faisait semblant jusqu'à présent, mais seulement semblant, de défendre, si ce n'est l'ensemble des salariés, au moins ceux des classes moyennes. La vérité, c'est que les classes moyennes vont devoir se remettre, avec toute la modestie nécessaire, à l'école de la classe ouvrière. Elles vont devoir observer, écouter, en renonçant à toute suffisance, en s'efforçant de comprendre pour retrouver au plus vite le chemin de leur véritable appartenance sociale et peut-être par là même de leur salut.
Sous-titrage Société Radio-Canada. jusqu'à 40 balais. Jusqu'à maintenant, je croyais que tous les grévistes étaient des agitateurs ou des communistes. Mais maintenant que je sais ce que c'est que d'être exploité, je suis enfin décidé à manifester.
On aura compris que je tiens ces trois essais d'Alain Cardo pour des outils particulièrement utiles dès lors que l'on se propose d'y voir un peu plus clair dans les enjeux politiques et sociaux actuels. Ces trois essais sont écrits de manière vraiment très, comment dirais-je, très claire, expliquent les choses avec parfois une pointe d'humour qui permet de faire passer les vérités quelquefois les plus noires. Et nos grands experts médiatiques, n'est-ce pas, qui n'ont rien de plus pressé que de toujours entourer d'un écran d'épaisse fumée leurs arguments propres à démontrer qu'il faut inéluctablement que nous soyons tondus, eh bien ces grands experts médiatiques vous diront que les choses, bien sûr, sont plus compliqué que ce qu'affirme Cardo. Mais, comme le commente celui-ci, je cite, « affirmer d'un ton sentencieux que les choses sont plus compliquées revient à proférer un leitmotiv creux dont il serait permis de rire s'il n'était malheureusement utilisé comme une arme pour tuer, au moins symboliquement, les adversaires malpensants en les réduisant au silence et en les ravalant au nombre des archaïques et des primitifs dépassés par le progrès quand ce n'est pas au nombre des esprits insanes. » Fin de citation. J'en ai fini pour aujourd'hui. Alors, chers archaïques, je dirais, chères primitives, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Contre-Courant le mois prochain. D'ici là, évidemment, continuez de lire et d'apprendre. C'est tout le mal que je vous souhaite et croyez-moi, ça peut toujours servir. À bientôt.